Ce matin, je vous propose que nous méditions autour d'un sujet dont nous ne parlons pas assez souvent. Je le confesse, voilà, je ne le parle pas non plus assez souvent de ce sujet, mais c'est quand même un sujet très important. Et ce sujet fera l'objet voilà, d'une série que nous allons voir ensemble pendant ces quelques dimanches. Et j'espère que ces enseignements puissent nous apporter l'édification, l'encouragement, l'espérance et la consolation nécessaires pour que nous puissions avancer tous ensemble dans la foi en Jésus-Christ. Cela s'est imposé à mon cœur au regard vraiment de tout ce que nous vivons autour de nous dans ces temps dans lesquels nous sommes. Et comme vous l'avez constaté, il y a tellement d'événements, tellement de situations, tellement de circonstances autour de nous, et le chrétien ne peut pas se permettre de passer à côté, d'ignorer ce qui se passe autour de nous. Même si nous sommes impuissants devant tous ces faits, nous devons tout de même de nous arrêter et de nous poser un certain nombre de questions. Je souhaite débuter donc ce matin cette série de messages sur le retour de Jésus, le retour du Seigneur. Ces enseignements, vous savez, font partie de la doctrine appelée eschatologie, c'est-à-dire ce sont les choses à venir, les choses de la fin des temps. Et j'aimerais d'emblée dire que nous nous baserons uniquement sur ce que Dieu dit dans sa parole. Là également, nous n'allons pas rentrer dans des débats théologiques. Parce que comme vous le savez, beaucoup de livres ont été écrits sur ce sujet. Il y a beaucoup de polémiques voilà, qui se sont dites voilà, à propos de ce sujet. Là n'est pas le débat. Nous voulons simplement, à la lumière de la parole de Dieu, et je demande à Dieu toute sa grâce et sa sagesse. Et je n'ai pas la prétention voilà, d'aller au-delà de ce que Dieu dit, ni faire savoir, comprendre que je sais plus que vous, pas du tout. En toute humilité, j'aimerais simplement que nous puissions plonger nos regards dans ce que la parole de Dieu dit sur ce fait. Et pour cela, nous voulons nous tourner vers le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez pris le soin de lire ce livre de l'Apocalypse qui nous parle d'un certain nombre de choses. Et dans ce livre, nous voyons au chapitre 22 nous retrouvons les dernières paroles de Jésus lui-même. Et en examinant ce que Jésus dit dans ses paroles, dans ce chapitre 22, nous rendons compte qu'il revient à trois reprises l'expression « Je viens bientôt ». À trois reprises, Jésus qui donne les dernières paroles et qui fait remonter à la surface cette expression « Je viens bientôt ». Au verset 7, il dira « Voici, je viens bientôt ». Au verset 12, également, il dira « Voici, je viens bientôt ». Et au verset 20, Jésus conclut en disant « Oui, je viens bientôt ». Comme si il réaffirmait cette merveilleuse promesse. Le retour du Seigneur, comme nous le savons, est l'espérance de tout croyant, de tout enfant de Dieu. Et c'est une promesse extraordinaire que Dieu nous a donnée, que le Seigneur lui-même a donnée à son Église. Ce matin, nous allons, tout au long de cette série, nous allons voir ensemble tout ce qui concerne le retour du Seigneur, les signes qui vont précéder. Nous allons voir ensemble un certain nombre de faits. Et aujourd'hui, notamment, nous voulons nous baser uniquement sur le retour du Seigneur comme un fait. Oui, c'est un fait. Et nous verrons ensemble les buts du retour du Seigneur. À travers cette expression « je viens bientôt », vous savez, on entend même au sein du monde évangélique un certain nombre de choses concernant cet événement. Beaucoup se permettent aussi d'aller au-delà de ce que la parole de Dieu dit. Mais quand on examine ce que Jésus va dire, « je viens bientôt », il est vrai qu'il y a plus de 2000 ans que le Seigneur a fait cette promesse. Et certains se permettent de dire qu'il est fou de croire dans une telle promesse. Puisque ça fait 2000 ans que le Seigneur a dit qu'il vient et qu'il n'est pas encore venu. Et même si la promesse n'est pas encore accomplie, la foi du chrétien, notre foi à nous, ne doit pas être ébranlée au regard vraiment de tout ce qui se passe autour de nous. Et il est à constater que nous vivons des temps très particuliers. Je viens bientôt. Vous savez, en grec, le mot « bientôt », en grec, ce mot a deux sens. Il a deux sens, le mot « bientôt ». Le premier sens, c'est, il est traduit par « sous peu ». Je viens sous peu. Et le deuxième, il a le sens de promptitude, de subitement. Il vient subitement. Mais quand nous mettons ensemble ces deux aspects-là, il nous donne une idée de ce que sera réellement le retour du Seigneur. Il y a beaucoup d'événements politiques, économiques, sociaux, écologiques, qui se passent autour de nous. Rien qu'à voir tout ce qui s'est passé encore récemment au Maroc. En essayant de faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, on se rend compte que les catastrophes naturelles qui se sont produites uniquement depuis le début de l'année sont énormes. Et il est estimé à plus de 34 milliards de dollars de pertes. 34 milliards de dollars de pertes dues à ces événements-là. Si nous parlons du retour, de la seconde venue, il y a lieu de nous rappeler de sa première venue. Il est venu une fois, Jésus, comme le serviteur souffrant, livrant sa vie, donnant sa vie à la croix, pour le salut de l'humanité tout entière. C'était le but de ta venue sur la terre. Quand il est venu en tant qu'homme, il est venu, nous l'avons connu comme un enfant qui a grandi et qui était là pour accomplir la volonté de son Père en livrant sa vie à la croix pour le salut de plusieurs. Mais en examinant la parole de Dieu, nous avons cette espérance qu'il revient aussi une deuxième fois, non pas en serviteur souffrant, mais en serviteur de gloire. En serviteur de gloire pour chercher, cette fois-ci, ceux et celles qui ont cru en sa parole. La première fois, il est venu pour livrer sa vie afin d'ouvrir le chemin qui conduit aux hommes dans la présence du Père. Et pour sa deuxième venue, Jésus revient pour chercher ceux, celles qui lui appartiennent. Oui, amen. Elle est là, notre espérance, pour nous donner cette assurance que nous n'allons pas demeurer sur cette terre corrompue, sur cette terre avec toutes les souffrances que nous avons. Oui, il dira Jésus, je viens bientôt. Après sa résurrection et juste avant son ascension, Jésus se tenait de rassurer ses disciples. Ils avaient vécu 3 ans et demi avec lui. Ils ont cheminé avec Jésus. Et vous conviendrez avec moi que plus nous prenons le temps d'être avec quelqu'un, plus il y a cette proximité. Et lorsque la personne vient à nous quitter, il y a comme un déchirement dans notre cœur. Il y a comme une souffrance qui est là. Et Jésus connaissait la souffrance qui était dans le cœur de ses disciples. Il connaissait la tristesse qui allait envahir leur cœur lorsqu'ils devaient repartir. Et il se tenait de rassurer ses disciples en leur disant ceci. Dans Jean au chapitre 14, versets 1 à 4, Jésus va leur dire ceci. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Il dira à Jésus, je vais vous préparer une place et je reviendrai. Donc, nous ne pouvons plus, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, douter de cette promesse. Jésus, à la fin de l'Apocalypse, à la fin du dernier chapitre de la Bible, il va proclamer à 3 reprises, « Oui, je viens bientôt » pour confirmer ce qu'il avait dit à ses disciples. « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Quelle joie de savoir, frères et sœurs, que si aujourd'hui, physiquement, nous ne voyons pas le Seigneur, nous savons qu'il est avec nous dans notre cœur par la personne du Saint-Esprit, un jour viendra où nos yeux le verront face à face. Je viens, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alors qu'il remontait au ciel, les disciples le voyant s'élever dans les nuées, puisqu'il devait repartir auprès du Père, même des anges vont rassurer les disciples. Ils étaient perplexes, les disciples, en voyant Jésus s'élever dans les nuées. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Et là, des anges vont apparaître aux disciples dans Actes au chapitre 1, versets 9 à 11, alors qu'ils étaient là, stupéfaits de voir la puissance de Dieu se manifester. Il est dit ceci. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Voici les anges aussi qui fortifient le cœur des disciples. qui encourage ces hommes voilà, à ne pas demeurer dans leur tristesse, mais à prendre courage, parce que Jésus reviendra les chercher. À la lumière de ce que nous avons lu, de tous ces textes-là, et il y en a bien d'autres, nous pouvons conclure que voilà, le retour du Seigneur est un événement, un des événements les plus importants. C'est un des événements les plus importants de la foi chrétienne. Puisqu'il est mentionné près de 300 fois uniquement que dans le Nouveau Testament. Et Paul en a consacré des livres entiers. Quand nous lisons la première épître et la deuxième épître aux Thessaloniciens, Paul consacre tous ces deux livres pour parler de cet événement, pour fortifier la foi des croyants, des églises, pour susciter un élan. Et c'est ce que j'aimerais vraiment, frères et sœurs, que nous puissions nous aussi ne pas nous lasser au regard de ce que nous vivons, au regard de tout ce qui se passe, mais en nous remémorant ces événements, en nous remémorant cette promesse merveilleuse, cela doit susciter un zèle encore au sein même des ténèbres dans lesquelles nous sommes, parce que nous avons cette promesse merveilleuse: je reviens, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Paul consacre donc des livres entiers, mais il n'est pas le seul à parler de cela. Parce que les évangélistes Matthieu et Marc aussi ont consacré des chapitres entiers. Matthieu 24 et Luc, et Marc 13 nous parlent également du retour de Jésus. Pour nous amener à dire ceci, c'est une promesse divine extraordinaire. Une promesse divine extraordinaire qui s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Mais le croyant est perplexe parce qu'il s'arrête sur le mot « bientôt ». C'est sûr qu'en français, quand nous regardons, quand on dit « bientôt », pour nous, c'est quelque chose dans l'immédiat. Mais comme je vous ai dit, dans le grec, il a deux sens. Il a deux sens. Et nous devons nous en tenir, non pas à ce que nous croyons, parce que c'est la langue française qui nous le dit, mais nous voulons nous référer aux textes originaux pour réellement nous inspirer de ce que le Seigneur veut nous dire. Cette promesse, lorsque nous lisons tous les textes qui se rapportent à elle, se réalisera en deux étapes. Paul, dans son épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, nous parle de sa venue dans les airs pour chercher son Église. Où, et nous reviendrons là-dessus, il va y avoir les morts en Christ qui vont ressusciter, et les vivants qui sont restés sur la terre aussi vont être enlevés. Il y a cette période-là, et il y a aussi sa venue sur la terre pour instaurer son royaume, son royaume. Et ces deux événements sont intercalés, il y a au milieu ce qu'on appelle la grande tribulation. Il y a au milieu ce qu'on appelle la grande tribulation. On verra tout ça après. Mais ce matin, j'aimerais vraiment que l'on puisse s'attarder sur ce fait-là et voir ensemble quelques buts pour l'Église en ce qui concerne sa venue dans les airs. Que son nom soit béni. Il dira Jésus, on va reprendre ce qu'il va dire aux apôtres. Dans Jean au chapitre 14, verset 3, il dira ceci: je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Frères et sœurs, si ici sur la terre, nous ne pouvons pas être tous ensemble, les croyants du monde entier ne peuvent pas être tous ensemble en un seul lieu, nous avons cette assurance que dans le ciel, nous allons nous retrouver, qui que nous soyons en France, en Afrique, en Chine ou aux extrémités de la terre. Cette promesse, elle est pour tous ceux et toutes celles qui auront livré leur vie et qui l'auront cru en sa parole de Dieu. Je vous prie de croire que les événements qui se succèdent aujourd'hui font peur. Je lisais les informations et uniquement au Maroc, il y a eu quand même près de 5000 morts. Près de 5000 morts. C'est comme si on rasait toute la ville de Vennes. Vennes, c'est à peu près 3000. Si je ne me trompe pas. 5000 morts. Et dans ces 5000 morts, il y a peut-être des croyants. Peut-être. Sans compter les dégâts. Quand je prenais le temps, quand vous êtes chez vous, d'essayer de chercher tout ce qui s'est produit. Au Canada, il y a quand même un grand nombre d'hectares qui a été brûlé. Et quand on regarde, vous savez, le nombre d'hectares au Canada qui a été brûlé, c'est comme un pays entier qui va être détruit par les flammes. Sans oublier les inondations. Ce qui s'est passé en Chine, en Grèce, en Espagne. Tous ces événements font peur. Parce que ça se passe autour de nous. Et si ça se passait ici? Et bien que ça fasse peur, frères et sœurs, nous avons cette promesse merveilleuse de notre Seigneur Jésus. Et l'enfant de Dieu peut se consoler avec cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que Jésus nous donne. Au milieu même de tout ce que nous pouvons vivre, au milieu même de la tristesse, des catastrophes, des maladies, de tout ce que nous pouvons voir autour de nous, il y a là cette bonne nouvelle que nous n'aurons pas à souffrir pour toujours parce que le Seigneur vient pour prendre celles qui lui appartiennent, qui mettent leur confiance en lui. C'est une bonne nouvelle et nous devons nous réjouir. Nous devons nous empresser, frères et sœurs, de chercher à connaître ce Dieu-là qui reviendra nous chercher. De nous empresser réellement à demeurer en lui, auprès de lui. De nous empresser de dire, Seigneur, quelle joie tu inondes mon cœur au sein même de ce que je peux vivre, Seigneur. Même si aujourd'hui je suis dans la souffrance, même si aujourd'hui je suis dans la détresse, je sais, Seigneur, que ta parole me l'a confirmé, que tu viendras me chercher afin que je sois avec toi. Là où est le Seigneur, c'est un lieu de bonheur, un lieu où il n'y aura plus de souffrance. Mais malheureusement, si pour nous c'est une réjouissance, si pour le croyant c'est une bonne nouvelle, et j'aimerais ce matin, frères et sœurs, quel que soit ce que tu vis ce matin, quel que soit ce que tu as enduré tout au long de la semaine, retiens cette bonne nouvelle. Ne te dis pas, la promesse a été faite il y a 2000 ans, et elle ne s'est pas encore accomplie. Dieu seul sait pourquoi, et nous le verrons, il tarde dans l'accomplissement de ses promesses. Dieu seul sait. Pourquoi? Parce que, voilà, nous ne sommes pas les seuls. La parole de Dieu dit, Dieu, voilà, il use de patience. Il use de patience, voulant que tous les hommes soient sauvés. C'est le désir qui bouillonne dans le cœur de Dieu, parce qu'il veut qu'un plus grand nombre goûte à son amour. Voilà pourquoi le Seigneur tarde dans l'accomplissement de sa promesse. Mais parce que nos yeux ne voient pas au-delà, certains se permettent de dire, voilà, la promesse a été faite et elle ne s'accomplit pas. Et parce qu'elle ne s'accomplit pas, malheureusement, l'Église se refroidit. Les chrétiens se refroidissent. Il n'y a pas ce zèle-là, alors que cette promesse, cette bonne nouvelle devrait susciter en nous un élan de dire, Seigneur, oui, tu as fait la promesse, et parce que tu tardes dans l'accomplissement de tes promesses, Seigneur, je veux être un instrument de bénédiction entre tes mains pour qu'un plus grand nombre parvienne à te connaître. Elle est là, la mission de l'Église. Et si cela est une bonne nouvelle pour l'Église de Jésus-Christ, malheureusement pour ceux qui le rejettent et qui sont sous le jugement de Dieu, c'est loin d'être une bonne nouvelle. C'est loin d'être une bonne nouvelle. C'est un message effroyable pour eux. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur, dans son amour, nous a sauvés. Nous avons goûté, nous goûtons à son amour et nous pouvons serrer au plus profond de notre cœur cette promesse-là. Mon frère, ma sœur, s'il y a quelque chose que tu dois retenir, c'est la promesse dans ton cœur. Serre-le au plus profond de ton cœur. Et quelles que soient les difficultés qui se présenteront, dis-toi que le Seigneur t'a promis qu'il viendrait te chercher. Donc, il est là le premier but de la venue du Seigneur pour prendre les siens, pour chercher ceux et celles qui lui appartiennent. Mais il y a quand même une condition préalable. Il y a une condition préalable. Nous l'avons évoqué tout à l'heure. Quand nous lisons le chapitre 4 de la première épître aux Thessaloniciens au verset 16, regardez ce que l'apôtre Paul va dire. Il dira ceci, en effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Voilà là une consolation pour celui ou celle qui a perdu un être cher. C'est vrai, il y a un déchirement quand on perd un être cher. Mais nous pouvons être consolés et nous réjouir de ce qu'un jour, nous les reverrons. Amen. Oui, nous les reverrons. Il est dit dans la parole, c'est l'apôtre Paul, et je crois inspiré par l'Esprit du Seigneur qui dira ceci pour nous montrer réellement que nous ne devons pas nous apitoyer quand un être cher nous quitte. Même si nous sommes dans la chair, nous devons tout de même avoir la promesse en vue. Il dira, les morts en Christ, en Christ. En Christ. Les morts en Christ. Parce que ceux qui ne sont pas en Christ, il y a autre chose pour eux. Voilà pourquoi il faut que tout homme sur la terre, que chacun s'efforce à régler ses affaires avec Dieu avant de s'en aller. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de possibilité de régler quoi que ce soit. Nous voyons cela avec la parabole de Lazare et de ce riche homme. Hein. Quand les hommes, c'est lorsque nous sommes sur la terre que l'homme se doit de faire la paix avec Dieu. Malheureusement, beaucoup autour de nous se disent « J'ai toute la vie devant moi, je peux faire ce que je veux, Mais non, on ne peut pas faire ce qu'on veut si nous réalisons. C'est pour cela que c'est l'enfant de Dieu, c'est nous en tant que croyants, parce que nous savons, nous connaissons ces choses, c'est nous qui devrons nous efforcer réellement à faire connaître ces choses-là. La condition première, c'est lui appartenir, les morts en Christ. Les morts en Christ. Et Paul parle de deux choses qui sont nécessaires afin qu'il puisse prendre ceux qui lui appartiennent. Les morts, d'abord, vont ressusciter. Beaucoup ne croient pas en la résurrection. Mais Paul va le dire. D'abord, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Et vous êtes morts dans vos péchés. Et nous avons besoin quand même de pouvoir nous laisser stimuler par ces paroles-là. Les morts en Christ doivent ressusciter d'abord, et les vivants vont être transformés. C'est merveilleux ça. Ah, c'est merveilleux. On se regarde dans le miroir aujourd'hui, on se dit, oh purée, toutes ces rides. Toutes ces rides depuis ces années-là. Vous savez, ma belle-mère, quand elle vient tout le temps, elle dit, elle se regarde dans la glace et elle se dit, quand j'étais jeune, j'étais belle. Oui, mamie, tu étais belle. C'est vrai. Mais il y a aussi, le cours de la vie qui fait que les rides sont là. Mais à la venue du Seigneur, nous n'aurons plus à nous inquiéter de nos rides. Amen. On n'a plus à s'inquiéter de nos rides. L'enveloppe que nous avons ici va périr. Elle va rester sur la terre. Mais le Seigneur va nous donner un corps nouveau. Un corps nouveau. Et je me réjouis. Ah, je me réjouis de ce corps nouveau-là. Et Paul nous montre cela en disant, les morts en Christ ressusciteront d'abord, ensuite, ceux qui seront restés en vie, mais il parle aussi de ceux en vie avec Christ. J'insiste là-dessus, ceux qui seront en vie avec Christ, il dira, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et il termine en disant, encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Encouragez-vous. Frères et sœurs, encourageons-nous ce matin par ces paroles-là. Cette promesse merveilleuse que Jésus nous a faite. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, nous serons enlevés. Avec quel corps? Jésus, dans Jean au chapitre 11, verset 25, il parle de lui comme étant la résurrection et la vie. Et que celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Et Paul nous montre que pour pouvoir être enlevé dans les airs avec le Seigneur, il faut qu'il y ait cette transformation du corps. Il faut qu'il y ait cette transformation. Paul ajoute qu'il faut que ce corps, dans 1 Corinthiens 15, 53, il faut que ce corps corruptible revêtent l'incorruptibilité. Donc ce n'est pas ce corps que j'ai aujourd'hui qui va aller à la rencontre du Seigneur. C'est un nouveau corps. Un nouveau corps que le Seigneur va nous donner. Et si aujourd'hui, beaucoup s'empressent dans la chirurgie esthétique, je dis malheureusement, ils n'ont rien compris, parce que ça ne sert à rien. C'est un gaspillage d'argent. Ça ne sert à rien parce que ce corps retournera à la poussière. Excusez-moi de dire, ce sont les vers qui vont se réjouir. Ça ne fait pas plaisir, hein, mais c'est la vérité. Ce corps-là, il va rester ici-bas. Puisque Paul continue en disant, ce corps mortel, il faut que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous montrons vraiment que les morts seront rendus vivants et les vivants verront leur vie devenir immortelle. Quand Jésus va revenir, ceux et celles qui vont être enlevés avec lui ne connaîtront plus la mort. Amen. Aujourd'hui, la mort, ça fait peur. Ça fait peur, la mort. Mais quand nous avons nos yeux fixés sur la promesse du Seigneur, cette peur s'en va. Parce qu'on sait. On sait où on va. Et vous savez, Paul insiste beaucoup là-dessus pour montrer à quel point il faut cette transformation du corps. Au verset 50, il dira ceci, le sang et la chair ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Le sang et la chair, ce que nous avons ici-bas, ce ne sont pas ces choses-là qui vont aller à la rencontre du Seigneur. Nous allons être transformés. Vous savez, nous ne pouvons guère connaître la nature exacte de cette transformation. Mais il y a quand même des passages montrant la possibilité d'être enlevé sans passer par la mort. Nous avons l'exemple de l'enlèvement d'Enoch. Vous pouvez lire cela dans Genèse 5, verset 24 ou Hébreux 11, 5. Et il y a aussi celui d'Élie. Deux Rois, chapitre 2, verset 11 à 18. Mais alors que Jésus s'adresse à ceux et celles qui le questionnent au sujet de la résurrection, dans Luc au chapitre 20, verset 36, regardez ce que Jésus va dire. Et c'est très intéressant. Ils sont venus poser la question en disant, voilà, cette femme, il y a une femme, un homme qui a épousé une femme, il est mort sans laisser d'enfant. Il avait sept frères, tous l'ont connu, c'était la loi du Lévirat pour perpétrer la lignée de quelqu'un. Et le frère devait prendre la défunte pour perpétrer la lignée. Et ils vont dire, pour tenter Jésus, tous les sept l'ont eu comme femme. Tous les sept. Sans laisser d'enfant. Et ils vont lui dire à la résurrection. À la résurrection, qui va l'avoir pour femme? Peut-être que quelqu'un se pose la question. À la résurrection, puisque tous l'ont eu pour femme sur la terre, là-haut, comment vont-ils faire? Comment vont-ils faire? Et regardez ce que Jésus va dire. Nous allons lire ceci. Il dira à Jésus, Jésus répondit, les hommes et les femmes de ce monde se marient, mais celles et ceux qui seront jugés dignes de prendre part à venir à la résurrection ne se marieront pas. Ils ne pourront pas non plus mourir. Regardez ce qu'il va dire. Car ils seront semblables aux anges. Ils seront semblables aux anges. Nous ne pouvons pas savoir exactement la nature de la transformation que notre corps va avoir. Mais voilà ce que Jésus nous dit. On va être semblables aux anges. On va être... Moi, je n'ai jamais vu un ange. Je ne sais pas comment il ressemble. Mais si à la résurrection, nous allons être semblables aux anges, c'est que c'est un corps merveilleux. C'est un corps glorieux. C'est quelque chose qui plaît à Dieu. Puisque le sang et la chair ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Le deuxième but de la venue de Jésus dans les airs, c'est pour juger et récompenser. savez, quand je parle du jugement, on peut se dire, mais c'est quoi ce jugement? Lors de son retour, il n'est pas question d'être jugé pour être condamné. Parce que le Seigneur, en venant pour la première fois, nous a déjà jugés. Il nous a déjà jugés. Même si nous savons que, voilà, étant sur la terre, nous commettons toujours voilà, des péchés, et le Seigneur, en étant là, il nous corrige. Il nous corrige sur la terre. Mais lors de sa seconde venue, chaque croyant sera jugé, non pas pour être condamné, mais nous allons être jugés quant à l'utilisation des talents, des occasions que le Seigneur nous a données. Nous allons être jugés pour cela. Nous avons l'exemple de ce que Jésus va dire dans Matthieu chapitre 25. Quand vous lisez ce passage du verset 14 au verset 30, Jésus nous parle voilà, des récompenses. On a l'exemple de la parabole des talents, de la parabole des mines, pour montrer que si le chrétien est jugé une deuxième fois, ce n'est pas pour être condamné, mais pour être récompensé. C'est pour être récompensé. C'est pour voilà, nous amener réellement, frères et sœurs, à ne pas nous reposer sur nos lauriers. Nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous devons nous empresser d'autant plus à faire valoir ce que le Seigneur a déposé sur nos cœurs. À montrer à quel point nous sommes dignes de lui. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 3, versets 11 à 15, Paul parle, vous savez, du feu qui va éprouver nos œuvres. Le feu pour éprouver nos œuvres. Montrant par là, quand vous lisez ce passage, il montre par là qu'il y aura des chrétiens qui vont être sauvés avec beaucoup de récompenses, mais il y aura aussi des chrétiens qui vont être sauvés avec peu de récompenses. Quelqu'un dira, à quoi bon ? Le but, c'est d'être sauvé. Mais vous savez, j'ai entendu une prière tout à l'heure. Lorsque nous nous tiendrons devant Dieu, les couronnes que le Seigneur nous aura données, nous les jetterons à ses pieds pour lui montrer à quel point il est digne, comme nous l'avons chanté, de recevoir l'honneur, la louange et la gloire. Ce n'est pas à nous, c'est à lui. C'est à lui seulement que la gloire revient. Et à cause de cela, voilà, il y a l'exhortation de demeurer en Christ. C'est ce que l'apôtre Jean va le dire dans sa première épître au chapitre 2, verset 28. Regardez ce que l'apôtre Jean dira. Il dira ceci. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, ainsi nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Nous n'aurons pas la honte d'être loin de lui lors de son retour. Nous n'aurons pas à rougir de n'avoir pas de récompense à lui remettre. Parce que tout ce que le Seigneur nous donne, c'est pour que nous en servions pour sa gloire. Il dira à l'apôtre, demeurez en lui. Ainsi, nous aurons de l'assurance lorsqu'il apparaîtra. Et nous n'aurons pas la honte quand nous nous tiendrons devant lui. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses. Je t'en confierai de plus grandes, dira le Seigneur. Bon et fidèle serviteur. Ces récompenses, je termine rapidement. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, Paul dira, c'est pour ceux qui auront été fidèles. Pour ceux qui auront été fidèles, dans ce qui leur a été confié. Vous savez, parfois on oublie que nous sommes des intendants. On oublie parfois que nous sommes des intendants, des gestionnaires, des choses que le Seigneur nous a confiées. Ce que le Seigneur nous a confié ne nous appartient pas. Nous aurons un jour à rendre compte. L'intendant doit toujours rendre compte à son supérieur de ce qu'il fait de l'argent. C'est comme ça. S'il s'en est rempli la poche, ah, tant pis pour lui. Le jour où ça va se savoir, c'est à lui de répondre. Nous, nous avons des comptes à rendre. Des comptes à rendre devant Dieu. Et nous serons récompensés en tant que gestionnaires selon la manière dont nous avons utilisé les biens que le Seigneur nous a confiés. Paul dira ceci dans Galates au chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6. Regardez ce que Paul va dire. Ne vous y trompez pas. Il dira Paul, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Cela est vrai sur la terre et nous le voyons. Tous nos choix ont des conséquences. Mais cela est aussi vrai dans le ciel, quand nous serons devant notre Seigneur. Ce que nous aurons semé sur la terre, nous le récolterons. C'est ce que Paul a voulu faire savoir. Et nous réalisons vraiment à quel point nous devons nous empresser à la lumière de ce que Jésus va dire. Je reviens bientôt pour vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous devons, en tant que croyants, ayant goûté à l'amour de Dieu, nous empresser à servir le Seigneur d'une manière désintéressée. L'apôtre Paul nous parle aussi de notre part de responsabilité dans le salut des âmes. Il montre que chaque croyant est responsable des âmes des autres. Vous savez, parfois on le dit et on se permet de le dire, je ne suis pas responsable du salut des autres. Regardez ce que Paul va dire. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. Parce qu'il faut toujours se référer à la parole de Dieu, pas à nos conceptions, mais à ce que Dieu veut nous dire à travers sa parole. Et l'apôtre Paul nous dira ceci dans sa première épître aux Thessaloniciens au chapitre 2, verset 19. Regardez ce qu'il va dire. Alors qu'il s'adresse aux croyants de Thessalonique, il leur dira ceci. En effet, quelle est notre espérance? Quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire. Paul dira, il interpelle ses chrétiens en leur disant, quelle sera ma récompense dans le ciel? Et voici ce qu'il va dire. N'est-ce pas vous aussi? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son retour? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Ces chrétiens-là ont été rendus à la vie suite vraiment au ministère de l'apôtre Paul. Et c'est par lui, il se présente comme étant le père spirituel de ces chrétiens. Et nous devons, frères et sœurs, nous rappeler ceci. Nous savons bien que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs. Nous savons que c'est le Seigneur qui ajoute à son Église des âmes. Mais le Seigneur se sert de ceux et celles déjà qui ont goûté à son amour, de ceux et celles qui l'ont connu, pour révéler son amour à ceux et celles qui ne le connaissent pas et le révéler à ceux et celles qui ne le connaissent pas. Quelle est notre espérance et notre joie? et notre gloire. Paul dira, ce sont ceux et celles que le Seigneur nous a permis d'amener au salut. Ceux et celles. On ne peut pas se contenter, frères et sœurs, de notre propre salut. On ne peut pas se contenter de notre propre salut. Et le Seigneur, voilà, se sert de ceux et celles de son Église pour se faire connaître. Et nous avons besoin, frères et sœurs, de nous empresser d'être ses acteurs. Parce que Jésus dira lui-même, il a donné une mission aux disciples et à l'Église de Jésus-Christ. Allez par tout le monde et faites des disciples. Faites des disciples. La question que j'aimerais que chacun se pose ce matin, sans culpabiliser qui que ce soit, loin de moi la pensée de culpabiliser qui que ce soit, et loin de moi aussi la pensée de que quelqu'un voilà, s'enorgueillisse. Ce n'est pas là le propos, le but. Mais là, quelqu'un que j'aimerais se poser, que l'on se pose. Alors que Paul va dire aux chrétiens de Thessalonique, vous êtes notre joie, vous êtes notre gloire, notre espérance. Lorsque nous nous tiendrons devant Dieu, pourrons-nous proclamer ceci? Ou encore aujourd'hui, peut-on dire un tel, à travers le Seigneur m'a permis de pouvoir amener au salut un tel, une telle. Non pas pour s'enorgueillir, hein, parce que la gloire revient à notre Dieu. Mais il y a l'air de réaliser que c'est de notre responsabilité. Je ne peux pas me contenter de mon salut parce qu'un jour, je vais rendre compte à Dieu. Et le jour où je me tiendrai devant Dieu, qu'est-ce que je vais lui dire? Quand nous examinons de près vraiment ce que, vous savez, la parabole des talents, trois personnes, un avait reçu 10, un autre 5, un autre 1. Les deux premiers ont fait fructifier ce que le Seigneur leur a donné. Ils ont fait fructifier à leur manière, avec la force que le Seigneur leur a donnée. Mais un, il va dire, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Vous savez, aujourd'hui, on a peur d'aller témoigner. On a peur de révéler qu'on appartient au Seigneur. Parce qu'on a peur du regard des autres. On a peur du jugement des uns des autres. Du qu'en dira-t-on? Mais cet homme-là qui a eu peur et qui est allé enterrer ce qui lui avait été remis, il ne se doutait pas qu'il avait des comptes à rendre. Et lorsque le maître est revenu, il va lui dire, tu aurais pu quand même aller poser ma pièce afin que ça me rapporte quelque chose. Et on va lui retirer même ce qu'il avait. Frères et sœurs, quand je lis ce passage, je dis, Seigneur, viens-moi en aide. Viens-nous en aide, Seigneur. Seigneur, ne nous retire pas ce que tu nous as donné, mais donne-nous de mettre en valeur. Donne-nous de mettre à la lumière ce que tu nous as donné. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, faire fructifier ce que tu nous as donné. Et je prie vraiment, frères et sœurs, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, nous aspirons à ce que le Seigneur ajoute à son Église des âmes. Et nous le savons, comme je l'ai dit et je le répète encore, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs. C'est le Seigneur qui ajoute à son Église, mais il le fait à travers chacun d'entre nous. À travers vous et moi. Il le fait à travers vous et moi. Et je prie vraiment que le Seigneur nous aide à user de sagesse, à ne pas nous reposer sur nos lauriers, à ne pas nous contenter de notre salut, mais à se souvenir qu'il y a des hommes et des femmes qui, si rien n'est fait, vont se retrouver dans ce feu qui ne s'éteindra jamais. Et c'est terrible. Quand je réalise, quand nous réalisons que si Jésus n'était pas venu à notre rencontre, le même sort nous était réservé. Mais puisque le Seigneur nous a fait la grâce pour que nous soyons tirés de là, il devrait y avoir un empressement en moi. Il devrait y avoir un empressement en chacun de nous en se disant, Seigneur, s'il y a une personne que tu veux te servir, que ce soit moi. Pour que tu puisses ajouter à ton Église des âmes sauvées. Que Dieu soit béni. Vous savez, quand on a en vue la promesse du Seigneur, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Quand on a en vue vraiment cette promesse merveilleuse, on ne peut plus faire autrement que d'être un instrument entre les mains du Seigneur. Qui que nous soyons, quel que soit notre âge, oui, aujourd'hui nous sommes dans ce corps qui un jour retournera à la poussière, mais un jour viendra où le Seigneur nous donnera un corps glorieux. Et c'est ça qui est, c'est ce qui est réjouissant. Aujourd'hui nous souffrons, mais un jour viendra où nous serons dans ce lieu de paix. Et voilà ce qui nous réjouit. Aujourd'hui, nous, voilà, notre monde, notre société traverse des crises, pas possible. Mais un jour viendra où le Seigneur mettra un terme à toutes ces choses pour que nous soyons pour toujours avec lui. Voilà en quelques mots, voilà les quelques buts. Et comme je l'ai dit, c'est en ce qui concerne l'Église. Il y a d'autres, voilà, pour ce qui concerne de sa venue sur la terre. Il veut se révéler lui-même et révéler les siens. Il va venir sur la terre une deuxième fois pour juger la bête, le faux prophète et leurs armées, pour lier Satan. Il va revenir pour sauver Israël. Il va revenir pour juger les nations, pour délivrer et bénir la création, pour établir son règne. Mais je me suis attardé en ce qui concerne l'Église. En ce qui nous concerne, nous, frères et sœurs, pour nous amener réellement à nous dire, Seigneur, il n'est plus temps de sommeiller. Il n'est plus temps de nous reposer, Seigneur. Comme Jésus va le dire, la nuit vient où personne ne pourra travailler. Alors, frères et sœurs, puisse le Seigneur nous aider. Au regard de ce qu'il dit, je viens bientôt. Je viens bientôt. Et parce qu'il vient, nous voulons qu'il nous trouve fidèles dans tout ce qu'il nous a confié. Que son nom soit béni. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce qu'un jour tu t'es révélé à nos cœurs. Seigneur, nous voulons te bénir encore pour ce salut si merveilleux que tu nous as donné. Nous te rendons grâce parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Seigneur, parce que nous avons du prix à tes yeux, non seulement tu nous as sauvés, mais tu nous rends participants de tes œuvres. Tu aurais pu te passer de chacun de nous, Seigneur, mais tu te sers de nous. Et nous te rendons gloire, Seigneur, parce qu'un jour viendra où nous allons être réunis avec toi. Mais avant ce temps, Seigneur, nous voulons redoubler d'élan pour toi. Nous voulons, Seigneur, chacun pour sa part, ne pas regarder à notre propre confort, Seigneur, mais nous empresser vraiment au regard des souffrances afin que plusieurs parviennent à te connaître. Seigneur, je te prie de bénir mes frères et sœurs. Seigneur, s'il y a eu, en entrant dans ce lieu ce matin, vraiment de la lassitude, parce que les temps sont longs, parce que ta promesse tarde à s'accomplir. Ranime la flamme, Seigneur. Ranime ta flamme en nous. Ranime le zèle en nous, Seigneur. parce que nous savons que la promesse s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Que ton Église dans cette ville, Seigneur, puisse rayonner. Que les chrétiens que nous sommes puissent réellement, Seigneur, être ce sel et la lumière au sein même des ténèbres pour que bon homme puisse te connaître. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Pardonne-nous pour nos manquements. Pardonne-nous, Seigneur, pour les choses que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait, pour celles que nous avons faites et que nous n'aurions pas dû faire. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Alors, Éternel, viens-nous en aide. Étends ta main sur chacun. Raccompagne, Seigneur, et renouvelle-nous dans le nom de Jésus. Amen.